France Inter.
Dix ans après les attentats du 13 novembre, Interception ce dimanche ferme une porte et en ouvre une autre. En deux reportages, vous allez assister à la fin d'un collectif et au début d'une expérience singulière. On n'a rien oublié, hein, ni des 132 morts, ni des centaines de blessés, ni des traumatisés par milliers, mais on n'a pas voulu revenir en 2015. Vous n'allez pas entendre les mots d'il y a 10 ans, pas revenir dans le Bataclan, ni sur les terrasses, ni au Stade de France. Les histoires que Charlotte Spirey va vous raconter commencent aujourd'hui. Vous allez d'abord rencontrer 4 femmes. Il y a Laure, Gaëlle, il y a Marianne et Alix.
Interception. Fabienne Sintès sur France Inter.
J'ai l'impression que nous, les victimes, on a reçu une espèce de condamnation à perpétuité. Donc on attend de nous, est-ce qu'on revienne plus ou moins à un état à peu près à ce qu'on était avant ? Mais pas trop, pas plus, il faut quand même être un petit peu brisé, sinon c'est suspect. Et moi, ça m'agace.
Elle était au Bataclan, Alix, elle est solide, ça s'entend. Et pour cesser d'être cette victime à vie, elle est d'accord pour qu'on enlève le filet de sécurité. Ce sont ces mots qu'est l'association Life for Paris qui accompagne les victimes depuis 10 ans. C'est là que Charlotte Spirey nous fait entrer d'abord. L'association va se dissoudre. Cette porte-là va se fermer, c'était prévu comme ça depuis longtemps. Vous allez assister à l'une des dernières réunions, peut-être la plus importante, celle qui pose cette question. Désormais, qui sommes-nous ? Il n'y avait que le micro de Charlotte ce jour-là. Elle connaît tout le monde elle aussi, elle a croisé tous ces gens très régulièrement ces 10 dernières années. On se tutoie, on s'embrasse, on prend des nouvelles de la famille. Celui qui ouvre la séance, c'est Arthur Desnouveaux, le président de Life for Paris. Et l'ordre du jour, comment se quitter tout en promettant de ne jamais se perdre de vue.
Ça va ? Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour, comment ça va ?
Ma forme ?
Oui, ça va.
Bonjour.
Salut, dame.
Salut, fille.
Bonjour.
Ça va ?
Je fais une photo. Je fais une photo avec le président. Merci.
Bah on peut peut-être écarter des tables. Hein.
Oh, il a ramené des binous.
C'est vrai qu'il est charmant.
Il y a blonde à épier.
Ah, moi je prends blonde. Hein.
Blonde à épier. C'est les bières de Rémi Guilloso.
C'est vrai ?
Rescapé de Bataclan, le Val-Polmont. Brasserie
à Montpellier.
À Montpellier.
Il est anti-reuse.
Il est anti-reuse si tu vas chez lui.
Et du coup, je l'ai convaincu de venir pour le 13.
Ça aurait du sens de boire hein, cette bière-là ce jour-là. Quoi.
Je vous propose qu'on attaque les vrais sujets et la dissolution. Donc je vous rappelle, on en était.
C'est à la mode.
On a annoncé la dissolution 2 ans et demi à l'avance. Ouais. Et ça, c'était beau. On a aussi vu que dissolution n'était pas disparition. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que vu qu'on a un secrétaire de haute volée, c'est qu'il allait nous faire, aidé par son président adoré, une proposition de nouveau statut. La question étant, qu'est-ce qu'on met dans ces nouveaux statuts ? On veut être le plus proche de la disparition possible, on est bien d'accord ?
Bah, effectivement, donc, la priorité qu'on s'était fixée, c'était de pouvoir continuer à organiser chaque 13 novembre des commémorations. Ça, c'était plus ou moins acté. Mmh.
Et un moment de convivialité.
Et un moment de convivialité.
Parce que ça peut permettre de demander une subvention.
On est d'accord. Le groupe reste tel qu'il a commencé. Donc, en fait, on continue simplement en faisant une grosse apérothérapie le 13, quoi.
Non, mais donc, on se met une barrière assez nette. On organise vraiment juste un comité des fêtes. Ce que nos adhérents nous demandent, là, c'est disparaissez pas, OK pour la dissolution, et on fait cette commémo le 13.
Je sais pas, on va faire ça toute notre vie. Dès qu'il y aura... Je sais pas.
Bonjour, je m'appelle Alix. J'ai 39 ans et je suis scénariste. Et je suis membre du CA de Life for Paris. Le 13 novembre 2015, j'étais au Bataclan. C'est un événement dévastateur. Et donc, c'est évident que ça casse des trucs, mais
Ouais, je sais pas, je pense que j'ai jamais voulu être que ça. Même pas par rapport aux terroristes, de dire ils auraient gagné sur moi ou un truc comme ça. C'est juste, je trouve ça très, très enfermant. Et en fait, une fois que j'ai commencé à rencontrer d'autres victimes et à pouvoir en parler, et puis qu'on s'est raconté, bah, toi, t'étais où, qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que t'as vu, comment ça va, bah, y a des amitiés qui se sont nouées très fortes. Et à ce moment-là, quand on rencontre quelqu'un avec qui on devient ami, bah, on se raconte d'autres choses. Et là, j'ai dû commencer à réfléchir à qui j'étais en dehors de ça. J'aime le cinéma, j'aime tel groupe de musique, je suis comme ci ou comme ça. Et donc, je pense que c'est à partir de ce moment-là où, déjà, où j'ai eu un peu cette espèce de truc de dire, OK, je ne suis pas que ça. Je suis aussi ça, ça fait partie de moi. Ça fera toujours partie de moi, mais je suis aussi d'autres choses. D'ailleurs, c'est ça qui m'a permis de commencer à relever, à sortir la tête de l'eau.
Et 10 ans après, c'est d'autant plus nécessaire ?
Ouais. J'ai l'impression que nous, les victimes, on a reçu une espèce de condamnation à perpétuité à être victime. Et à, ben c'est assez contradictoire parce que d'un côté, on nous parle de résilience. Moi, j'aime pas beaucoup ce mot, mais donc on attend de nous, est-ce qu'on revienne plus ou moins à un état, un peu près à ce qu'on était avant, mais pas trop, pas plus. Il faut quand même être un petit peu brisé, sinon c'est suspect. Et moi, ça m'agace.
Alix ?
Non, mais moi j'aime bien vous voir, c'était juste plus symboliquement de me dire que. Pardon, je redeviens un peu sérieuse.
On n'est plus une assaut victime, mais une assaut ancienne victime, si tu veux.
Victime, mais pas que. Non, c'était ça.
De gens qui se sont appelés victimes. Non, mais attends, si t'es dans la symbolique, c'est une vraie question. Hein.
Non, mais il y a un peu le côté. On sort quand de ça, quoi.
Moi, je pense que le 13 matin, ouais. C'est pas si bête.
Et le moment émotion en disant, putain, on clôt la page. On est à nouveau à la mairie du 11, là où on a fait la première AG, la première année, et là, on tourne la page de la structure associative.
J'aime bien.
Non, moi, j'ai l'impression que ça, putain, ça va nous libérer d'un poids, et on va boire un coup, et putain, on s'est débarrassé de ça, quoi.
Ça vous va, ça ?
Oui.
Bon.
Non, mais j'ai rien dans le café.
Évidemment, voilà. Évidemment. Il y a question.
J'avais pas envisagé la dissolution à l'époque. Ça existe depuis le début, Life for Paris. Et puis, on a vécu des moments très forts, on s'est beaucoup soutenus. Et puis, on a construit une communauté très forte. Et en fait, assez rapidement, j'ai réfléchi. Je me suis dit que les liens d'amitié, la communauté, tout ça, ça va perdurer. Et que bah, les liens qui sont voués à se distendre, bah, ça va arriver comme pour n'importe quoi. Et que finalement, c'était assez juste et que c'est enlever le filet, quoi. Je peux pas dire couper le cordon, mais moi, c'est plus enlever le filet de sécurité. Et c'est une manière aussi de permettre, entre guillemets, aux gens de retourner à leur vie et d'être autre chose aussi. Mais à un moment, il faut y aller, quoi. Et d'ailleurs, ça a été accueilli un peu violemment par certains membres qui se sentaient peut-être isolés ou fragilisés, et je le comprends. Alors, il y avait des remarques vraiment inquiète de personnes qui ont en gros qui ont comparé Life for Paris à une espèce de doudou qu'ils auraient du mal à se séparer, donc il y en a d'autres qui étaient vraiment en colère et qui nous ont même dit que ça risquait d'être dramatique, qu'on risquait d'avoir des suicides, des choses comme ça. Et
il y a encore des gens qui vont très mal 10 ans après.
Oui, ça, c'est un truc qu'il faut dire aussi, parce que c'est vrai que on est pas mal à quand même avoir réussi plus ou moins à reprendre le cours de notre vie, à retourner en concert beaucoup pour ceux du Bataclan, aller en terrasse pour les autres, avoir repris plus ou moins une vie normale avec nos petites spécificités, on va dire. Et il y en a, effectivement, qui font vraiment des efforts, qui se battent, qui essaient plein de choses différentes et qui ont vraiment du mal à sortir la tête de l'eau, et je pense que ils se sentent souvent oubliés aussi dans la représentation qui va être faite des victimes, notamment dans les médias, parce que c'est vrai qu'on va souvent présenter la victime résiliente qui a accompli des exploits, des choses comme ça, parce que ça, c'est le genre d'histoire qu'on aime bien, mais la victime qui tous les jours de sa vie se dit j'aurais préféré ne pas survivre, j'arriverai jamais à aller mieux, je pense que ça, c'est un truc qu'on n'a pas très envie de voir, et eux, faut pas les oublier. Enfin, on a eu encore un suicide l'année dernière, donc ouais, faut pas oublier ceux qui ont l'impression qu'ils s'en sortiront jamais.
Le suicide auquel fait référence Alix, c'est celui de Fred De Wild, l'un des rescapés du Bataclan. Il s'est donné la mort près de 9 ans après le 13 novembre. Et j'ai rendez-vous avec Marianne, sa compagne, dans l'appartement où ils ont vécu. Ils se sont rencontrés après les attentats. Et dans son appart reste beaucoup d'œuvres de Fred parce qu'il était dessinateur de bande dessinée. C'est au numéro 21. Et Marianne m'a envoyé le code. Elle me dit qu'il y a un chat et un chien qui vont nous accueillir, mais qui sont sympathiques.
Tu sors.
À ta place. C'est bien.
Vous l'avez eu avec Fred ?
Ouais.
Vous voulez bien nous raconter comment vous êtes rencontrés ?
C'était le 12 octobre 2019. Bah, ça a duré... c'est une rencontre qui a duré toute la nuit. On a discuté jusqu'à 7h du matin. Et après, on ne s'est plus jamais quittés. Il avait un très grand appétit de vivre après ce par quoi il était passé. Et le 13 faisait partie du bagage. Mais c'était un sujet parmi les autres et c'était à une place, certes, présente, mais pas envahissante au sens de ce qu'on retrouve dans ses œuvres. Toute son œuvre, en gros, est sur l'effet de la confrontation à ce massacre, sur celui qui a survécu. Il avait ses propres ressources, alors il a pris des médicaments, il allait voir un psy, enfin, il a suivi le parcours de beaucoup de victimes, mais il avait surtout ses dessins, qui sont épouvantables, hein, on ne peut pas dire le contraire. C'est une œuvre qui est très sombre, très représentative d'une souffrance extrême. C'est une œuvre qui dépasse les mots. Et ce qu'il disait, c'était non, c'est sorti. À partir du moment où il l'avait représenté, il l'avait formulé, il l'avait d'une certaine manière socialisé, et il n'était plus seul avec. Il n'avait de cesse finalement que de nous rassurer.
Et c'est vrai que, dit comme vous le dites, ça semble rassurant, non ? Quand oui. vous entendiez ça, de dire « Ok, c'est, mon dessin certes est très sombre, mais ça veut dire que je m'en débarrasse ?»
C'est ça.
On a envie d'y croire.
On a très envie d'y croire. Et ce qu'il voulait vivre avec nous, c'était la vie. Il trouvait que survivre, même si c'était un calvaire, puisqu'il le disait, qu'une partie de lui était morte ce soir-là et que le plus dur, c'était de survivre avec ça. Mais pour lui, ça valait vraiment le coup de survivre avec tout l'amour qu'on partageait avec, avec moi, bien sûr, mais avec ses enfants, ses proches, sa famille, ses parents. Il s'accrochait vraiment à ça et il était heureux.
Vous voulez bien nous montrer quelques dessins de Fred ?
Avec grand plaisir. Là, c'est un vieux dessin de lui. Alors, il aime beaucoup dessiner les gorilles, qui représente assez bien, en fait, déjà, je trouve, le personnage fort qui porte la souffrance. C'est...
Oui, parce que c'est un gorille
qui porte un jeune ensanglanté, manifestement. Le regard qu'il a sur le jeune est très tendre et je trouve que ça représente très, très, très bien Fred. Puis dans l'entrée aussi, on en a quelques-uns, on a quelques-unes de ses œuvres. J'aime beaucoup ce dessin. Ça a été mon premier cadeau. C'est Fred qui est représenté au-dessus des nuages dans un paysage de montagne et qui jette dans cette mer de nuages de Kalachnikov. D'une certaine manière, il rend les armes et les éloigne de lui. Et,
il est très beau.
Il est très beau, oui.
Moi, j'ai toujours refusé de m'enfermer dans mon statut de victime. J'ai repris le métro le mercredi après les attentats.
Fred De Wilde, 2017, RFI.
La vie me force pour moi à aller de l'avant. Je pense que pas mal de gens ont perdu une insouciance. Pour ma part, c'était déjà fait. J'ai toujours été quelqu'un de très positif, très optimiste. Je me retrouve encore avec cet optimisme, mais il faut que je me batte beaucoup plus qu'avant pour pouvoir l'avoir. Maintenant, j'aurais tendance à me considérer mort chez les vivants. Je lutte tous les jours, pour être en vie. C'est réellement ça. On n'efface pas ça comme ça.
Ce qu'on ne mesure pas, et je crois que c'est peut-être un des aspects les plus sournois des traumas, c'est en fait cet effort permanent. C'est une guerre d'usure, en fait, entre Fred et cette mort qu'il essayait d'apprivoiser. C'est un mal tellement intense. Je trouve que déjà, les 8 ans et demi qu'il a vécu avec nous et tout ce qu'il nous a donné sont déjà, je pense, à la mesure de l'exploit. Parce que le jour de sa mort, il n'y avait rien de rationnel qui explique ce geste. On s'aimait, c'était une évidence. Il avait plein d'amis. Il était aussi sur des projets d'autres bandes dessinées qui ne parlaient pas du 13. Et il vivait ça comme une façon d'en sortir. Et j'ai l'intuition, mais c'est complètement personnel, que le fait de ne plus avoir eu son dessin de catharsis sans qu'il s'en rende compte lui a manqué. D'une certaine manière, il a voulu aller trop vite. Et à la fois, nous, on n'attendait que ça. Plus le trauma était éloigné, plus ce qu'il nous donnait à vivre était au plus près de ce que nous, on avait envie de partager avec lui.
Il y a aussi beaucoup de victimes qui ont osé dire à quel point la mort de Fred leur avait fait peur pour elles-mêmes.
Oui, tout à fait. Tout à fait. On a des amis qui étaient furieusement en colère contre Fred, contre cette trahison. Lui qui portait toujours le verbe un peu haut et puis la grande gueule et l'incarnation d'une forme de solidité. Hein. C'était un exemple dont on ne mesurait pas le coup. Il ne faut pas qu'on ait honte de son suicide. Et il ne faut pas le cacher. Le psychotrauma peut être mortel.
Six ans et demi après l'horreur à Paris et Saint-Denis, 10 mois après le début du procès, la justice a donc délivré sa vérité sur les attentats de novembre 2015. Les peines vont de 2 ans de prison à la perpétuité incompressible contre les 20 accusés.
Beaucoup de parties civiles s'étaient donné rendez-vous à la mi-journée pour déjeuner ensemble, pour se retrouver ensemble, pour s'épauler.
On se soutient, on se fait des câlins, on prend des photos, parce qu'on sait que justement ça va se terminer là maintenant.
En ce jour historique, il y avait une ambiance très étrange, place Dauphine, sous les arbres, sous le soleil.
C'est vrai que ce procès a été tellement important pour nous. Il y a une petite peur de perdre ces liens.
Alors, je viens d'arriver place Dauphine. C'est cette place parisienne qui se situe juste à l'arrière du palais de justice. Et c'est une place que les acteurs du procès des attentats du 13 novembre ont beaucoup fréquenté pendant les 10 mois d'audience. Parce que c'est par ici qu'on rentrait, par l'arrière du palais, du fait du dispositif de sécurité exceptionnel. Et aujourd'hui, donc, on revient ici. J'attends Gaëlle et Laura. Toutes les deux, elles ont à la fois témoigné au procès parce qu'elles ont été très grièvement blessées au Bataclan. Des blessures qui leur ont laissé des séquelles physiques assez importantes. Gaëlle et Laura, elles ne se connaissent pas. Donc voilà, je les attends pour un petit café matinal place Dauphine. Bonjour Laura, comment ça va ?
Merci.
On s'est dit qu'on serait bien en terrasse, étant donné la jolie météo du jour.
Ouais.
Je crois que Gaëlle arrive.
Bonjour Gaëlle.
Bienvenue.
Enchantée.
Bonjour.
Bonjour.
Oui.
Bonjour, enchantée.
Enchantée.
Je vais aller chercher un petit café, non, ça vous dit?
Je commande. Qu'est-ce que vous voulez?
Un long café, c'est tout.
Je veux un cappuccino.
Je vais faire les commandes.
Tu veux commencer, Laura?
Non, je te laisse. Ah bon, ok. À moi l'honneur. Moi, j'étais au Bataclan. J'ai été grièvement blessée. J'ai perdu mon compagnon. Et je suis encore en reconstruction 10 ans après, physique. Et donc, du coup, aussi psychique.
Moi aussi, j'étais au Bataclan. Très blessée physiquement, comme toi. La reconstruction physique a été longue. Là, c'est consolidé.
Et tu as pu reprendre le travail ?
Oui, j'ai repris le travail en 2017, après les hospitalisations. J'ai pas gardé mon ancien boulot, j'ai fait une reconversion professionnelle.
Et t'es passée de quoi à quoi ?
J'étais assistante de direction. Et ensuite, je suis devenue designer, donc dans l'informatique.
J'ai fait une reconversion
aussi.
C'est pour ça que ça me parle. Moi, je suis passée du marketing à l'ergothérapie, parce que c'est en fait un métier que j'ai découvert en centre de réduc pour mon bras, qui a été immobilisé pendant quasiment 3 ans. Et j'ai eu un espèce de déclic, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Bon, j'avais pas trop capté qu'il fallait se remettre dans 3 ans d'études, et en même temps, voilà, je me suis lancée, je me suis dit, j'ai plus rien à perdre, et ça faisait sens, en fait. Donc, t'es débarrassée, toi, de tes OP
Oui.
Tu marches
Oui, ouais, c'était très long ça. Il y a eu des moments où t'as reculé, ça revenait. J'ai utilisé une canne pendant plusieurs années après. Là, je m'en suis débarrassée. J'ai revu le chirurgien pour la jambe, pour m'assurer que c'était bien consolidé et c'est OK. Il m'a dit, bon, vous allez mourir avec les appareils dans le corps, ce serait bien comme ça. On va vous laisser tranquille maintenant.
Toi, t'es moins tranquille.
Ouais, je suis encore pas mal dedans, ouais. J'ai la 56e opération vendredi prochain. Donc c'est non-stop. Ça a été une pente ascendante, on va dire, entre 2015 et début 2018, où, moi, je ne pouvais pas marcher pour d'autres raisons. C'est qu'ils ont pris l'os de ma jambe, mon péroné, pour reconstruire ma mâchoire. Et en moyenne, entre 2 et 4 mois, selon les périodes, au bloc, donc ouais, c'est un long combat, quoi. C'est de plus en plus dur, en fait. Mais voilà, tout comme toi, on a la chance d'être en vie, donc
ouais.
Je considère que voilà, c'est du plus, mais ouais, c'est dur.
Le fait d'être plus qu'un corps, je me suis pas réapproprié ça. Je me vois juste comme une âme dans un corps, et ça avance, quoi, c'est tout. J'ai eu pas mal de difficultés avec mon poids pendant ces 10 ans, des problèmes de comportement alimentaire aussi, un amour-haine avec ce corps. Des fois il m'embête, tu vois, parce que les trucs qui marchent, j'arrive pas, les mains m'embêtent parce que j'ai eu des difficultés, la jambe m'embête, enfin voilà, en fait ce corps m'embête.
D'un autre côté, oui, c'est difficile de pas faire avec. Donc c'est la difficulté, par exemple, de se mettre en maillot de bain parce que, effectivement, un corps plein de cicatrices, ça interroge. Et en même temps, c'est comme ça, en fait. Moi, ce sont mes tatouages naturels, voilà.
Moi, je me suis beaucoup tatouée, après, pendant ces 10 ans. Mais plus parce que j'aime ça, en fait. Et des fois, on m'a demandé, mais c'est pour couvrir tes cicatrices ? Absolument pas. Je le fais là où j'ai envie. Et c'est peut-être une forme de réconciliation, du coup, avec lui.
La décennie d'après, les 10 ans là qui s'ouvrent, vous vous souhaitez quoi ?
Cette page-là, je vois pas demain.
Alors oui, s'il y a bien un truc que j'ai encore plus développé, c'est jour après jour, limite heure après heure, parce que il m'est souvent arrivé de penser que j'ai pas envie de vivre très longtemps. Me projeter à 10 ans, c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Tout ce que je souhaite, c'est d'être tranquille au niveau santé. En tout cas, que ça soit stable. Et je te le souhaite aussi.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Surtout. Juste tranquille niveau de santé, puis vivre le reste tant bien que mal. Mais
oui.
Après, moi, en tant que maman, j'ai envie d'avoir une vie de famille équilibrée et sereine, tout simplement. Hein. cherche pas tellement plus loin. Je parle souvent des petits bonheurs de la vie quotidien, ça me va très bien. Voilà, en tout cas, l'envie de garder une certaine force intérieure pour avancer. Voilà, à peu près. Oui, bien.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir
merci.
Merci, c'était.
C'est étonnant de faire connaissance avec un micro.
Oui, c'est très bizarre.
De toute façon, vous avez vos numéros maintenant. C'est
oui,
si vous avez envie.
Merci. Très belle rencontre.
Avec grand plaisir, vraiment.
Partir chacun de son côté, recoller à sa vie, mais garder précieusement les numéros de téléphone.
France Inter, Interception.
Pour certaines victimes du 13 novembre, le procès, ça n'a pas suffi. Ça ne suffit toujours pas, c'est pas la fin de l'histoire. Chacune à leur manière, elles ont senti, pendant les audiences, qu'elles avaient besoin de passer de l'autre côté, c'est-à-dire de rencontrer des hommes condamnés pour terrorisme ou leurs familles, de comprendre et de voir de leurs yeux les conditions de détention de ceux qui voulaient leur mort, ou parfois même de savoir ce que deviennent ceux qui ne passeront pas leur vie en prison. Une forme de justice restaurative encore balbutiante en France, un chemin de reconstruction, pas toujours bien compris d'ailleurs, sur lequel le petit groupe que vous allez rencontrer marche encore à tâtons. Le plus étonnant et le précurseur, c'est Georges Salines. Sa fille Lola est morte au Bataclan et très vite après l'attentat, Georges Salines a rencontré des mères de djihadistes. Il a même écrit un livre avec le père d'un des terroristes du Bataclan, donc potentiellement avec le père de l'assassin de sa fille. Charlotte Spiré l'a accompagné en Belgique, un pays bien plus en avance que nous sur ces questions. Il est avec Catherine Bertrand, rescapée du Bataclan. Ils font tous les deux partie de l'Association française des victimes de terrorisme. Et les voici donc en route pour Bruxelles.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en cette Eurostar à destination de Cologne-Gardens. Notre train va partir. Attention à la fermeture automatique des portes. Dans les rues, Mario, un bon matin, je vais refermer tout ça.
Merci. Bon voyage.
Alors, on est dans l'Eurostar avec Georges et Catherine, direction Bruxelles, pour une journée qui est organisée par l'association Retissons du Lien. Retissons du Lien, c'est un groupe qui rassemble des victimes d'attentats, des parents de djihadistes, et qui va régulièrement en prison à la rencontre de condamnés pour terrorisme. Tout ça, eh bien, un peu comme son nom l'indique finalement, dans l'objectif d'amorcer un dialogue entre toutes ces différentes personnes.
Au départ, ce groupe Retissons du Lien, c'était un groupe de parole sans qu'il y ait vraiment de thème défini, mais petit à petit, on a eu évidemment des propositions pour discuter autour d'un thème. Et aujourd'hui, le thème, c'est la prison, parce que parmi les membres de ce groupe Retissons du Lien, ou les personnes qui gravitent autour, il y a pas mal de gens qui sont intervenus en prison. Certaines sont concernées aussi par le fait d'avoir un enfant en prison. Donc voilà, le thème de la journée, ça va être ça, la prison.
Et vous, comment est-ce que tous les deux, vous arrivez là-dedans?
Moi, ce qui me donne envie, c'est que ça casse un peu les codes. On est vraiment hors sentier battu. Et c'est aussi ça qui me plaît, c'est que c'est pas très cadré et ça libère la parole, en fait.
Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller en Belgique justement? Ils sont en avance sur nous, enfin ils sont précurseurs la Belgique sur les questions de justice restaurative.
Je pense que la France a beaucoup de chemin encore à parcourir. Je sais qu'il y a beaucoup de victimes après le procès V13 qui ont eu envie de continuer un peu cette phase judiciaire en s'intéressant encore plus aux accusés. J'ai même vu des victimes des parties civiles essayer de parler aux accusés dans le box. Donc ça, il y avait clairement un manque de lien quelque part. Et c'est vrai que c'est assez formaté en France. C'est-à-dire que les accusés sont dans le box, le procès fini et merci, au revoir. Nous, on a encore beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Moi, personnellement, j'en suis pas encore là, mais je sais qu'il y a des victimes où ça devient un besoin, une nécessité d'aller à leur rencontre. Quand on parle de justice restaurative en France, il y a beaucoup de préjugés.
Mesdames et messieurs,
messieurs, dans quelques instants, nous arrivons à Bruxelles Midi.
On va à Uccle, Schlumberg Park.
Vous cherchez le même endroit que nous ?
Rotisson Médias.
Oui, c'est ça. C'est numéro 142, mais là on est au 142.
C'est là.
Bonjour Charlotte.
Isabelle, enchantée.
Charlotte Pierre, enchantée de se voir pour de vrai.
Mais oui, c'est un grand plaisir. Bonjour.
Et Mickaël qui travaille avec
moi. Enchantée.
Alors ça y est, on est arrivé sur le lieu de la rencontre qui est organisée par Retissons du Lien. Il y a beaucoup de monde et notamment parmi les organisateurs de cette journée, il y a Isabelle.
Donc je m'appelle Isabelle Serret, je suis intervenante en sociologie clinique et formée en victimologie appliquée.
Et Isabelle, elle s'est intéressée très tôt aux jeunes djihadistes qui partaient en Syrie dans le cadre de son travail de sociologue. Et elle a notamment rencontré leurs familles. Et c'est là qu'elle s'est aperçue en fait que certaines de ces familles essayaient de rentrer en contact avec des proches de victimes des attentats.
Je me suis dit, bah tiens, ces gens essayent de se rencontrer. Et plutôt que cela ne se fasse sur un trottoir ou un café pas encadré, créons cet espace. Et c'est comme ça qu'en mars 2018, on a créé le premier dispositif Retissons du Lien. Et on a débuté donc en prison en 2022, en pensant y aller une ou deux fois. Et depuis, on y va une fois par mois, à raison de 3 heures avec 6 personnes victimes. Et il y a toujours une dizaine, douzaine de personnes détenues.
Qu'est-ce que ça apporte, ces rencontres en prison ?
Ben, c'est un peu la question qu'on nous pose et à laquelle on ne sait pas répondre, parce que c'est de l'ordre de la restauration de l'humanité. Et quand on parle de ça, on fait directement un peu naïf ou bisounours. Alors c'est vrai qu'on parle souvent à la place des personnes victimes. On dit « les personnes victimes ont besoin de ceci, les personnes victimes cela », alors qu'on ne les écoute pas et que chacune a une manière singulière de prendre un chemin de reconstruction. Et ce chemin-là existe. Et elles sont plus nombreuses que ce que l'on ne pense, mais c'est vraiment aller à contre-courant. Donc elles se taisent parce qu'elles n'ont pas envie de devoir se justifier. Et puis on leur fait croire qu'elles se font leurrer. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a à détricoter aujourd'hui. C'est montrer qu'on peut refaire société avec eux. De toute façon, ils sortiront un jour. Aujourd'hui, en amont des commémorations des 10 ans des attentats, nous souhaitons attirer l'attention sur ce chemin de reconstruction qu'empruntent certaines personnes victimes, donc c'est-à-dire les rencontres entre personnes détenues et personnes victimes en milieu carcéral. Notre envie première aujourd'hui, c'est de transmettre le fruit de nos réflexions. Vous nous donnez l'espoir qu'un autre monde est possible. Même si on n'est pas nombreux, ça commence toujours comme ça.
Bonjour tout le monde. Je commence à dire que je suis néerlandophone. Moi, je suis Fatima, je suis la maman d'un garçon qui est parti il y a 12 ans en Syrie. L'opinion publique me voyait comme coupable. La maman d'un terroriste, et je me sentais aussi coupable. Je me disais, c'est ma faute. On me dit toujours maintenant, mais c'est pas ta faute. Mais je réponds toujours, la culpabilité, elle vient gratuite. C'est un cadeau qu'on me donne comme maman, je pense, comme toutes les mamans. Quand quelque chose arrive à son enfant, c'est notre faute.
Je m'appelle Fatima Izarouni. Je fais partie du groupe Retissons du Lien depuis 2018. Le choix que mon fils a fait était tellement, tellement terrible pour moi. Même si mon fils n'a pas fait ces attentats, il a participé à un groupe de ces jeunes qui ont fait les attentats. Et pour moi, c'était très difficile, très difficile. Tous les sentiments négatifs, je les ai eus et je les ai parfois encore. La honte, la culpabilité, le sentiment de haine contre mon fils. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu es dans ce groupe? Pourquoi je t'ai pas élevé comme ça? Mais en même temps, je voulais faire quelque chose aussi de bien. Quand je suis arrivée à la présentation des victimes, aux familles de victimes, moi j'ai commencé à pleurer parce que je me disais, je suis ici pas à ma place parce que ce sont des victimes et moi je suis la maman d'un jeune qui est parti et ils vont me détester. Mais c'était l'inverse, ils m'ont accueilli très chaleureusement. On a dans les deux cas une grande souffrance, on en partage la souffrance. Mais on ne partage pas seulement la souffrance, on rit, on fait des choses ensemble, on se comprend. Les gens qui devaient me juger ou me haïr m'aiment et me comprennent. Avec eux, c'était la première fois que je ne me sentais pas la maman d'eux. Je me sentais Fatima. Je fais ça aussi pour mon fils. Oui, pour mon fils et pour la société aussi. Voilà. Voilà.
Aide-soignante.
Maintenant, je suis Echeville.
Alors, Echeville, il faut traduire parce qu'en France, ça n'existe pas. Je crois que c'est adjoint au maire, non?
Oui, adjoint au maire. Ah oui, adjoint au maire.
Oui. Alors après, tu vas devenir maire d'Anvers.
Et vous, comment vous vous êtes rencontrés?
On s'est rencontrés en mai 2016 à Paris, dans une conférence. Et ils avaient invité des victimes. Et ils avaient invité des mamans et je suis venu m'asseoir à leur table au lunch pour discuter. Les parents djihadistes, je ne sais pas qui c'est en fait. Je ne sais pas qui c'est. Moi, je découvre des mères qui, en souffrance, on se retrouve dans cette douleur. Mais c'est quelque chose qui me travaille toujours. Je pense que la question de la souffrance des familles, il n'y a pas beaucoup de gens qui en sont conscients et c'est évident que quand quelqu'un commet un crime ou va en prison, etc., il y a un impact sur sa famille qui est énorme, quoi. Ouais, on a l'impression d'avoir vécu ensemble depuis 10 ans, quoi.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'adresse?
Prison de Forêt, ça passe, non?
Prison de Forêt.
Dans
Prison
Wills, de Forêt. Avenue de la Jonction, à Forêt.
C'est ça, Perpignan.
13 minutes.
Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va faire une visite de 45 minutes, 1 heure. On va déambuler dans la prison. Je laisse la parole maintenant aux deux guides qui vont vous emmener à l'intérieur.
Venez ici, vous entrez dans le hall principal. Voilà, ici on est vraiment dans un espace transitionnel qui n'a pratiquement pas évolué depuis 1910. Ici, vous avez les deux ailes pour les hommes, les ailes les plus longues, qui ont environ 260 cellules au départ prévues pour une personne, mais dans lesquelles on va trouver, bien entendu, souvent 2, 3, voire 4 personnes. Vous avez l'aquarium, c'est-à-dire le central de surveillance que les agents appelaient le panoptique. On vous invite alors à passer dans la partie la plus impressionnante de la prison. Nous allons descendre dans ce que les détenus appelaient eux-mêmes l'enfer. La prison devait être fermée en 2012 et a été fermée en 2022.
C'est affreux.
Tu vis pas une ancienne prison, un vieux truc d'il y a 40 ans, quoi, alors que tu as l'impression que ça date des années 60. C'est à l'abandon depuis des années, mais non, c'était il y a 3 ans, même pas. C'était en novembre 2022, donc ça fait même pas 3 ans. Il y avait encore de la vie, il y avait encore des tas de personnes enfermées ici. Donc je m'appelle Christelle, je suis victime des attentats du 22 mars 2016 qui a touché le métro et l'aéroport de Bruxelles. Moi j'étais dans le métro. Je suis rentrée dans Rotisson du Lien pendant le procès, donc en 2022-2023. Et j'ai commencé à les accompagner en prison en 2023 parce que le procès m'avait ouvert à des envies, des questions et un appel à pouvoir être dans l'échange, pouvoir moi poser mes questions, pouvoir moi me confronter, les confronter aux faits. Et j'ai ressenti voilà, ce besoin déjà de rencontrer un de ces auteurs. Ça se prépare pendant plusieurs mois. On prépare ça avec des psychologues. Et ensuite, les psychologues vont rencontrer l'auteur en prison pour voir avec cette personne si elle est d'accord de rencontrer la victime. Et il y a un ping-pong entre l'auteur et la victime sur est-ce que tu es d'accord qu'on aborde tel sujet, est-ce que tu es d'accord que le détenu parle de ça, quelles sont tes limites. Et voilà, donc ça se prépare pendant des mois. Et ensuite, la rencontre a lieu quand on le sent et on a des questions en tête. Mais finalement, après, une fois qu'on est face à face avec une autre personne, c'est comme avec n'importe qui, on échange, quoi. Je pense vraiment que la vraie naïveté, c'est de ne pas penser à ces hommes et à ces femmes. Il faut penser à comment on peut les accueillir, qu'est-ce qu'elles vont devenir pour éviter la récidive. Et donc oui, aller en prison, c'est à toute petite échelle leur dire les membres de la société sont là, ils sont prêts à vous tendre la main, à vous accueillir le jour où vous sortirez.
Et pas n'importe quel membre de la société, ceux à qui même vous avez fait du mal en fait.
Oui, bah alors là le message est d'autant plus fort. Et on l'a bien vu, puisque dans le groupe qu'on suit quand même depuis plusieurs années, on a eu des personnes qui sont sorties entre-temps et qui sont, je pense, encore maintenant touchées par cette démarche de Rotisson du Lien, touchées parce qu'elles ne s'attendaient pas à rencontrer des victimes en prison et qu'en fait, ça les a transformées. Ça transforme les victimes, ça transforme les détenus. Je pense que ça ne peut être qu'une démarche qui suscite au moins quelque chose, quoi, une émotion.
Je retrouve Catherine, la rescapée du Bataclan, à l'extérieur de la prison. Elle a écourté la visite parce qu'elle s'est sentie mal.
Je sens que ce lieu est chargé de souffrance, donc c'est... Je suis une éponge, donc j'absorbe beaucoup de choses. Et en général, j'essaie de me protéger. Et là, c'est vrai que ça bouleverse, en fait. Il faut vraiment se déplacer en prison pour le voir. On a besoin aussi de s'inspirer de ce qui se fait en Belgique et potentiellement l'appliquer en France parce que les Belges ont de très bonnes idées. Et c'est bouleversant. Quand il y a eu le procès V13, j'avais beaucoup de colère. Donc au niveau du verdict, j'étais soulagée. Je me suis dit, ça y est, ils vont payer pour tout le mal qu'ils ont fait. Et puis après, avec du recul, je me rends compte qu'en fait, on ne peut pas laisser les gens crever comme ça dans les prisons. C'est pas possible. Et j'ai entendu beaucoup de choses, par exemple, sur les conditions de Salah Abdeslam. Il y a encore 2 ans, je disais, il l'a bien cherché. Maintenant, je suis en train de me dire, à quoi bon ? Il faut qu'il paye, évidemment, pour ce qu'il a fait. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le déshumaniser. Je sais que c'est vraiment un avis très personnel. On a tous, on a chacun une approche personnelle. On a chacun un vécu, notre propre vécu du procès V13. On s'est rendu compte que... derrière tout ça, il y avait des humains dont le cerveau est totalement grillé par Daesh. Qu'en fait, le problème est plus général. Et que même si on est heureux que l'état de droit soit passé par là, encore une fois, ça ne va pas résoudre le problème. Et ça, je suis quasiment sûre que je ne suis pas la seule à le penser.
après le 13 novembre, une série pour Interception signée Charlotte Spiret. À la prise de son, Alexandra Bergel, Florent Layani, Julien Girard et Michael Simon. À la production, Cécile Bidot et Xavier Yvon. La réalisation est signée Lucie Lemarchand, Martine Messonnier est chargée de programme et c'est Rémi Sistiaga qui assurait le mixage. Je vous renvoie aussi au podcast déjà en ligne, signé Charlotte Spiret, Sarah Guibaudot et Delphine Evenou. 5 épisodes remarquables, la loi, le renseignement, la justice, nos libertés, ce que le 13 novembre a changé en nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interception au bout du monde et au coin de la rue.